Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est la longue et douloureuse histoire des Noirs américains que Franck Ferrand a choisi de nous raconter aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le 6 novembre dernier, Barack Obama était réélu pour 4 ans à la tête des États-Unis. Or, contrairement à ce qui s'était passé en 2008, la plupart des médias ont passé sous silence le fait que le 44e président est métis, fils d'une mère d'origine irlandaise et d'un père kényan. En 4 ans, le monde entier s'est tout simplement habitué à ce qui, lors de la première élection d'Obama, paraissait à peine croyable. Un homme de couleur à la Maison Blanche.
Et vous avez choisi de revenir cet après-midi sur le combat des Afro-Américains pour leurs droits.
Oui, et sur la figure la plus célèbre d'entre eux, le pasteur King, auquel Alain Foy consacre une belle biographie. Nicole Bacharan est également avec nous, pour notre plus grand plaisir. Elle est notamment l'auteur d'un ouvrage réédité dans la collection Tempus, « Les Noirs Américains, des champs de coton à la Maison Blanche ».
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Cette histoire est celle d'un petit garçon fils de pasteur. On est à Atlanta, en Géorgie. Et c'est un bon élève, un petit peu bagarreur, c'est vrai, et très émotif. Ce petit garçon, en fait, a beau porter un joli costume marin, collectionner les bonnes notes et avoir des parents qui vivent très confortablement dans ce sud américain où la douceur de vivre est une seconde nature. Malgré tout ça, évidemment, il a des difficultés, ce petit garçon, car il n'a pas le droit d'entrer dans les mêmes établissements que ses camarades, ni de partager la plupart de leurs projets et de leurs ambitions, car ce petit garçon et de couleur à une époque où l'Amérique blanche n'était pas tendre avec ses enfants noirs. Il va néanmoins faire de brillantes études, ce garçon-là, et en 1944, il entre au Morehouse College d'Atlanta, un établissement pour élèves noirs dont il sort diplômé en 48. Il a 19 ans à ce moment-là. Je pose la question, est-ce qu'il va devenir médecin ou avocat? Mais tout ça, ce serait sans compter sur l'influence de sa famille et notamment de son père qui est un pasteur baptiste. Vous savez, les baptistes sont ces protestants très fervents, hein, inconditionnels de l'écriture sainte. On en trouve un peu partout dans l'Europe de l'Est, en Russie, et puis bien entendu, émigration oblige. Aux États-Unis. C'est donc le séminaire de Chester que va intégrer le jeune homme en Pennsylvanie. Il est un des 6 noirs sur les 100 étudiants du séminaire. En 1951, il obtient sa licence de théologie, entre à l'université de Boston et tout en suivant des cours de philo à Harvard, il soutiendra sa thèse de doctorat en juin 1955. Vous voyez qu'on est en présence de quelqu'un de très cultivé qui a lu et qui, à côté des philosophes classiques, à côté de Marx, qui est très à la mode à cette époque, a lu Gandhi. Et ça va être déterminant, puisque vous avez bien compris que la personne dont nous parlons, c'est Martin Luther King, comme nous disons nous, Martin Luther King, comme disent les Américains. Il s'est marié en 1952 à une chanteuse de gospel, Coretta Scott, et dès septembre 54, le jeune couple s'installe dans l'Alabama, où Martin est nommé pasteur, à Montgomery exactement, et c'est là que tout va commencer. Le jeudi 1er décembre 55, on a tous appris ça à l'école, une certaine Rosa Parks, elle a 50 ans, entre dans un autobus dans la partie réservée aux Blancs. Là, il faut dire que l'autobus était plein. Normalement, elle devrait céder sa place. Elle refuse. Elle est arrêtée. Elle sera libérée sous caution, mais traduite en justice. Martin Luther King, comme bien d'autres, est averti. Il est scandalisé par ce qui se passe. Et avec un ami pasteur, il organise le soir même une réunion au temple. Et il y a du monde qui va venir, des pasteurs, des avocats, des syndicalistes. Et bientôt, le mot qu'on n'a même pas le droit de prononcer, devient le leitmotiv. On va parler de boycott. Et si l'on boycottait cette compagnie de transport qui établit une ségrégation dans ses règlements? Le lundi 5 mai au matin, Martin Luther King est anxieux car le mot d'ordre de boycott a été passé. La question est de savoir s'il sera suivi. Est-ce que les Noirs vont céder? Est-ce qu'ils vont prendre l'autobus? Eh bien non, ils ne le prennent pas. Ils vont à pied, ils prennent des vélos, ils montent en taxi, ils s'organisent et le boycott va durer 382 jours, assez pour mener les sociétés de transport au bord de la faillite, assez pour faire fléchir la municipalité. C'est la victoire, la première petite victoire, bientôt suivie d'une très grande, puisqu'en novembre 56, la Cour suprême des États-Unis déclare inconstitutionnelles les lois imposant la ségrégation dans les transports. Alors entre-temps, Martin a été arrêté, menacé, mais il n'a cessé de faire entendre sa voix. Et quelle voix ! On peut dire que le pasteur King est devenu la conscience des Noirs américains du Sud.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité sur Europe 1, Franck, Nicole Bacharan, historienne spécialiste des États-Unis. Elle est la consultante d'Europe 1 pour ce pays.
Et elle nous a accompagnés pendant la nuit américaine.
Avec André Caspi. Elle est auteure du livre Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche, chez Tempus.
Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
Merci
Franck.
Beaucoup d'être ici. Alors, nous allons bien sûr continuer à suivre Martin Luther King tout à l'heure. On va aller jusqu'à son assassinat et puis on va revenir bien sûr sur tous les combats qu'il a pu mener. Avant ça, si vous le voulez, j'aimerais qu'on fasse une sorte de flashback, en quelque sorte, en m'appuyant d'ailleurs sur votre ouvrage, qui s'appelle « Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche », pour revenir aux origines même des Afro-Américains. Il ne faut jamais oublier que, comme leur nom l'indique, ils viennent d'Afrique au départ. Ils viennent très tôt, au tout début du XVIIe siècle, en vérité.
Au tout début de l'histoire de ce qui deviendra les États-Unis. La première trace que l'on a, elle date de 1619, donc un an avant l'arrivée des puritains du Mayflower. Et en 1619, dans la colonie de Virginie, donc c'est aux alentours de ce qui est aujourd'hui Washington, mais le capitaine de la colonie note, à la fin du mois d'août, un vaisseau de guerre hollandais nous a vendu 20 nègres. Voilà, on ne sait rien de plus, on peut juste supposer qu'ils n'étaient pas libres, puisqu'ils ont été vendus.
Oui, voilà, vendus. Cette condition servile, du reste, n'est pas réservée aux Noirs, à cette époque, il faut le dire. Et l'esclavage est une nécessité dans le système de l'époque, c'est une nécessité pour toutes ces plantations, de l'Amérique en général, pas seulement de l'Amérique du Nord, du reste. Et en l'occurrence, il y a des esclaves de plusieurs origines. Mais évidemment, plus le temps va passer, et plus ce seront des esclaves qui viennent d'Afrique et qui sont Noirs.
Absolument, parce que c'est vrai qu'au début de l'histoire de ce continent colonisé par les Européens et guère par des Africains, finalement, on a surtout besoin de beaucoup de monde, de main-d'œuvre. Il faut défricher, il faut planter, il faut récolter. Les Indiens se révèlent, je mets plein de guillemets autour, de très mauvais esclaves parce qu'ils ne supportent pas la captivité.
Et puis ils sont fragiles du point de vue de la santé.
Voilà, ils ne résistent pas à ces maladies également apportées par les Européens. Les Blancs, parce qu'il y a pas mal de serviteurs sous contrat, comme on dit, au XVIIe siècle, c'est-à-dire des gens qui ont été parfois enlevés, même ou embarqués sur les quais de Liverpool ou Manchester ou ailleurs, et qui doivent payer leur voyage par des années de travail forcé, il faut bien le dire. Mais après, voilà, ils se dispersent un petit peu dans la nature, ils se mélangent avec les autres. Les Africains, eux, ils sont solides, ils résistent, pour ceux qui arrivent à faire la traversée, ils résistent aux travaux les plus durs, et puis ils sont noirs. Donc s'ils veulent s'échapper, on les reconnaît.
Les premiers colons américains, c'était des WASP, n'est-ce pas ? Ils étaient blancs, anglo-saxons et protestants. Donc que dit l'Église et que disent les prêtres ?
Écoutez, trouve un arrangement, parce que comme vous le disiez, la demande en main-d'œuvre servile est tellement forte que l'État de Virginie, qui a été précurseur dans toute cette sinistre affaire, déjà, il y a le premier statut des esclaves en Virginie, là on est en 1661. Et puis la question, effectivement, c'est ces Africains sont-ils des hommes? Et bien oui, ce sont des hommes, ils ont une âme, on peut les baptiser, et la Virginie trouve la solution. Le fait d'être baptisé ou non, chrétien ou non, n'a aucune influence sur la condition servile ou libre de la personne concernée.
Ce qui veut dire qu'une grande partie de ces esclaves sont chrétiens, et bientôt même tous quasiment.
Oui, d'autant plus que la séparation entre noirs et blancs étant aussi forte que possible, les noirs se retrouvent dans des églises noires. Et ce sont quand même des lieux, là aussi beaucoup de guillemets autour de ça, mais où ils ont une certaine liberté. Ils y sont moins surveillés. Et puis ils jouent des rôles qui ne sont pas du tout les rôles habituels sur la plantation. Là, ils ne sont pas serviteurs. Ils peuvent être musiciens, ils peuvent être chefs de chant, ils peuvent être pasteurs, ils peuvent être leaders. Donc c'est un lieu d'expression qui est crucial dans la communauté noire.
Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vieille tradition, évidemment, dans les sermons, parce que les discours du pasteur King sont en grande partie des sermons.
Tout à fait.
Ils ont toujours une dimension un peu religieuse, et tout ça s'enracine loin dans l'histoire des Afro-Américains, il faut le dire.
Tout à fait, et notamment ce grand thème de la terre promise, de la liberté dans un monde meilleur. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé en étudiant cette histoire de l'esclavage, c'est que jamais Jamais les esclaves ne s'y sont faits, ne s'y sont habitués. Et la nostalgie de la liberté, du monde meilleur, de la terre promise, alors ça peut être le paradis plus tard, après la mort, mais ça peut être le Nord, le Canada, les pays où l'on est libre. Et puis aussi, pensons à toute cette musique magnifique qui est née dans cette souffrance de l'esclavage.
Il y a une culture tout à fait spécifique qui naît, en fait.
Et plus tard, le jazz.
Eh oui, ça donnera naissance au jazz par toutes sortes de... On y viendra
peut-être chemins
tout à l'heure.
Musicaux.
Oui. Alors, la couronne britannique, visiblement, s'accommode très bien de ses esclaves, en masse, hein, puisqu'il va y en avoir plusieurs millions à la fin du XVIIIe siècle. Il y a 6-7 millions d'esclaves.
Oui, tout
c'est
à
ça
fait. 6 à 7 millions qui ont été importés et donc qui ensuite ont des enfants. Donc le nombre des esclaves est même très supérieur.
Mais alors là où ça devient quand même plus étonnant, c'est que même lorsque les colonies deviennent indépendantes et qu'elles instituent la République avec cette fameuse déclaration des droits de l'homme, qu'ils sont quand même les premiers, les Américains, à avoir brandi dès 1776, la toute première, comment expliquer que l'esclavage ne soit pas remis en question?
Ah, je dirais l'esprit pratique. L'esprit pratique. Vous savez que Thomas Jefferson, qui a écrit cette déclaration d'indépendance, sa première version contenait une dénonciation, mais violente, de l'esclavage, l'appelant une guerre contre un peuple qui ne nous avait jamais fait de mal, etc. Mais il chargeait de la responsabilité déjà le roi d'Angleterre, ce qui était en partie vrai, mais pas seulement. Jefferson lui-même d'ailleurs possédait au moins 200 esclaves. Et puis il y a eu le premier compromis dramatique, je dirais symbolique, de toute l'histoire des États-Unis entre colonies du Nord et colonies du Sud. Les colonies du Sud avaient besoin de beaucoup plus d'esclaves avec l'économie de plantation. Et c'était soit on n'abolit pas l'esclavage et même on n'en parle pas, soit il n'y a pas d'union des 13 colonies, il n'y a pas de guerre d'indépendance.
Ce sera tout le problème qui va se poser 100 ans plus tard, enfin presque 100 ans plus tard, avec la fameuse guerre de sécession.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
La voix de Lady Day sur Europe 1, Strange Fruit, Billie Holiday, Franck.
Et Marie-Louise, via Facebook, nous dit que son rêve à elle, pour plagier évidemment Martin Luther King, c'est de voir un natif américain, un indien comme on dit, à la tête de son pays. Oui, on ne va pas confronter douleur contre douleur, mais il est évident que cette question des natifs américains est aussi une grande question, mais ce n'est pas celle que nous allons traiter aujourd'hui évidemment. La guerre de sécession n'a pas eu comme seul objet la question de l'esclavage, disons-le clairement, Nicole Bacharan, mais c'est bien symboliquement et politiquement ce qui reste de ce conflit terrible, extraordinairement meurtrier.
En fait, oui. Je dirais que malgré tout, l'esclavage était à la racine, mais personne ne voulait le reconnaître. Parce qu'on avait deux pays qui étaient en train de se constituer, avec deux systèmes politiques, avec deux économies qui étaient incompatibles, le Nord et le Sud. Ils étaient incompatibles. Pourquoi ? À cause de l'esclavage. Mais c'est vrai que les États du Nord sont partis en guerre au nom de la permanence de l'Union, et les États du Sud sont partis en guerre au nom du droit des États, au nom de la liberté des propriétaires d'esclaves, d'avoir des esclaves.
Mais c'est ça. Alors, les nordistes vont l'emporter dans cette terrible guerre de sécession, guerre civile qui est l'acte
extrême
de naissance des États-Unis modernes, disons-le, tel que nous les connaissons. Et ça aboutit donc à la suppression légale de l'esclavage, à une avancée en droit. Mais ça reste une avancée en droit, c'est ce qu'il faut bien souligner, parce qu'on ne comprend pas bien, sinon on se dit, mais alors, tout était gagné dès 1866, non
oui,
en fait.
Oui, en 65, 66, le 13e amendement s'impose, c'est-à-dire l'esclavage est banni aux États-Unis, et il est réellement banni pendant quelques années, et puis après, on commence à s'arranger entre soi, les élites se reconstituent, les partis politiques entre Nord et Sud font des alliances, les troupes, l'armée donc du Nord quittent les territoires du Sud et au fond livrent les anciens esclaves aux anciens propriétaires et se met en place ce fameux système de la ségrégation qui n'est pas l'esclavage puisqu'on n'achète plus et on ne vend plus des êtres humains, mais où les noirs et blancs sont supposés ne jamais se croiser, ne jamais vivre ensemble et où les noirs sont tenus dans un statut d'infériorité absolue, tenus aussi par un système de métayage où ils sont toujours endettés à l'égard du fermier et du propriétaire.
Avec c'est des violences aussi, hein. Il faut penser au Ku Klux Klan bien entendu qui va se développer pour organiser de véritables lynchages, de véritables expéditions punitives contre les Noirs et pour lutter justement contre les avancées qui ont eu lieu à l'issue de la guerre de sécession.
Tout à fait. Et le Ku Klux Klan a connu une grande époque, sa naissance, après la guerre de sécession. Mais il y a aussi une autre très grande époque du Ku Klux Klan, c'est après la Première Guerre mondiale. Parce que là reviennent des soldats noirs qui ont porté les armes et qui ont défendu la démocratie dans le monde. C'était le sujet de cette guerre, selon le président Wilson. Et quand ils reviennent, eh bien les blancs du Sud, mais pas qu'au Sud, ils ont juste peur. Ils ont peur que ça remette en cause l'ordre établi. Et c'est une période de lynchage, d'assassinat, de très très grande violence.
Avec pourtant une participation massive des Noirs dans les armées, que ce soit de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale.
Absolument.
Avec d'ailleurs l'effet que ça a pu produire sur le front en 1917-18, hein, puisque ça a joué un rôle important, il faut le dire. Enfin important, un rôle notable en tout cas.
Ça a joué un rôle notable et plus encore dans la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu 3 millions de soldats noirs enrôlés qui ont libéré l'Europe, qui ont libéré le Pacifique au même titre que leurs camarades blancs, sauf que c'était pas vraiment des camarades parce que les unités dans l'armée étaient ségrégées et elles étaient ségrégées à tel point que les banques du sang étaient ségrégées. C'est-à-dire qu'un soldat blanc ne pouvait pas risquer de qu'on lui injecte du sang dit noir, qui était rouge comme tout le monde, si j'ose dire, pour le sauver. Et c'était d'autant plus absurde que l'organisateur, le créateur des banques du sang, était un médecin noir.
Mais c'est quand même assez stupéfiant. Et puis, on voit, après la Seconde Guerre mondiale, se lancer le mouvement contre la ségrégation. D'ailleurs, le président Truman lui-même joue un rôle à cet égard.
Oui, et pourtant, ce n'était pas un grand partisan d'avancée sociale, mais c'est devenu insupportable. C'est devenu insupportable. Les Noirs n'acceptent plus de rentrer dans le rang. Et c'est à la veille de la guerre de Corée, que le président Truman déclare la déségrégation des armées. Et finalement, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas si mal que ça. Et la lutte contre pour la déségrégation est engagée à partir de ce moment-là.
Alors, nous sommes là au milieu des années 50. C'est ce que je racontais tout à l'heure avec cette affaire de Rosa Parks et avec le début des combats ponctuels dans un premier temps et puis qui vont peu à peu acquérir un tour politique. Et on verra surtout s'opposer des radicaux extrêmement violents autour du mouvement des Black Power et puis un mouvement beaucoup plus pacifique, beaucoup mieux intégré en quelque sorte, celui de Martin Luther King. Les deux vont devoir évidemment se confronter pendant de nombreuses années. On va y venir tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais vous raconter la fin du parcours de Martin Luther King, sa mort tout simplement très dramatique et que certains de nos auditeurs ont encore en mémoire.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui revient maintenant sur la disparition tragique de Martin Luther King.
Tout avait commencé quelques années plus tôt. Il y a une date que, évidemment, qu'il faut retenir, c'est celle du 20 mai 1963, quand la Cour suprême déclare inconstitutionnelle la réglementation ségrégationniste de la ville de Birmingham. On va y revenir tout à l'heure, bien sûr, dans le détail. Mais très vite, dans la foulée de cet événement, de cette décision, le président Kennedy, qui apparaît à la télévision, très grave, anormalement grave, enfin, de façon inusuelle en tout cas, annonce la présentation prochaine au Congrès d'un projet de loi sur les droits civiques qui établirait l'égalité dans tous les lieux publics. C'est une énorme avancée. Et Martin Luther King se dit qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il est assez politique pour savoir tirer parti de ce genre de climat favorable. Dès le 28 août de cette année 63, est donc lancée une marche historique sur Washington. Et c'est le soir, vous savez, de cette imposante manifestation que l'ancien pasteur de Montgomery, qui s'est retiré de la prêtrise et qui vit maintenant avec sa famille à Atlanta, c'est ce soir-là qu'il prononce son plus grand discours devant toutes les chaînes de télévision qui retransmettent le discours en direct. Il y a ce genre de moment de cristallisation, vous savez, un pays entier qui retient son souffle. Imaginez 150 000 personnes recueillies en silence au pied du Lincoln Memorial, lieu symbolique, hein, puisque, comme nous le disions à l'instant avec Nicole Bacharan, c'est quand même Lincoln qui est à l'origine des droits politiques des Noirs américains. Et soudain, la voix de Martin Luther King, une voix étreinte par l'émotion et qui s'élève.
I have a dream that one day... This nation will rise.
J'ai un rêve, dit Martin Luther King. Il déclare de cette voix qui va faire vibrer les États-Unis, un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. Nous tenons pour évidente par elle-même les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Je fais un rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais un rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Le rêve de Martin Luther King est en train, peu à peu, très doucement, trop lentement, au gré de certains, d'advenir. La mort du président Kennedy en novembre 1963 a pu faire craindre pour la suite du processus des droits civiques, mais le vice-président Johnson, une fois installé à la Maison-Blanche, reprend le flambeau et le 2 juillet 64, 2 juillet donc l'avant-veille de la fête nationale, Martin et les siens atterrissent à Washington pour assister à la signature par le président de la loi sur les droits civiques, le fameux Civil Rights Act. Pour les organisateurs isolés de l'ancien boycott de Montgomery, sur lequel on va venir dans un instant, c'est une victoire merveilleuse. Et en même temps, c'est une page qui se tourne. Alors qu'en septembre, Martin Luther King est reçu comme un homme d'État par le chancelier allemand Willy Brandt et par le pape Paul VI, alors qu'en octobre, il se voit décerner la distinction suprême du prix Nobel de la paix, un certain nombre de questions se posent quant à la suite de son action. Or, c'est en cette année 64 que s'opère le basculement entre la lutte civique pour les droits juridiques et la lutte politique pour des droits, disons, socio-économiques. Et à ce stade, si l'on veut comprendre l'attitude de l'ancien pasteur, il faut se remettre dans le contexte. Vous avez, je vous en disais un mot tout à l'heure, vous avez ces extrémistes noirs du mouvement Black Power qui ont depuis longtemps, si l'on peut dire, doublé Martin Luther King sur sa gauche. Un leader charismatique, le boxeur Cassius Clay, vous savez, qui est converti à l'islam et qui est devenu un véritable emblème de la révolte noire, dit à propos de Martin Luther King que c'est une sorte de traître, de vendu. Il le surnomme l'oncle Tom. Vous avez saisi le climat, hein. Il y a une sorte de dichotomie entre ces deux grands mouvements. Et la vérité, c'est que dans les États du nord des États-Unis, là où l'égalité politique est depuis longtemps admise, c'est maintenant l'inégalité économique et sociale qui se révèle le plus criante. Pour les jeunes des ghettos à Chicago, dans le Bronx, etc., les actions révolutionnaires et violentes des Black Muslims, par exemple, entre autres, paraissent beaucoup plus concrètes que les revendications théoriques pacifiques d'un Luther King qui, lui, s'inspire de Gandhi. Et Martin Luther King va devoir s'adapter. À partir de 66, il va s'installer donc avec sa famille à Chicago, participer à la campagne provocatrice Black is Beautiful, prendre ouvertement parti pour des squatteurs qu'il va aider à s'installer dans des immeubles non occupés, encourager les pauvres à faire la grève des loyers. Vous comprenez bien qu'à Washington, on commence à grincer des dents. Et évidemment, celui qui grince le plus fort, si je puis dire, c'est le tout-puissant patron du FBI, dont on a beaucoup parlé ici déjà, le légendaire ennemi du communisme mondial, le célèbre et mystérieux John Edgar Hoover. Jusque-là, disons qu'Hoover avait plus ou moins fermé les yeux sur l'activisme régionaliste, légaliste du pasteur noir. Seulement maintenant que Martin Luther King fréquente ouvertement des communistes, maintenant qu'il encourage publiquement à la désobéissance civique, à l'anarchie, maintenant qu'il fait aux yeux, en tout cas, des faucons du Pentagone, le jeu des ennemis castristes, maoïstes et autres bolcheviques, comme on dit dans la terminologie en usage dans les allées du pouvoir à Washington, les rouges, vous savez, c'est comme ça que Hoover parlait de tous les gens qui étaient très à gauche, maintenant que Martin Luther King passe au parti de la Révolution, pour parler clairement, il va devenir la cible à abattre, et d'autant plus que Martin Luther King a eu la grande imprudence de s'attaquer dans plusieurs de ses discours aux sympathies occultes du FBI pour des pratiques ségrégationnistes. Il ne faut pas chercher Hoover sur ce genre de terrain, et puisque Martin Luther King l'a cherché, si vous me passez l'expression, il va bientôt le trouver.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit qui revient aujourd'hui sur la mort de Martin Luther King.
Alors, Hoover est très en colère, hein, le patron, le vieux patron du FBI, vous savez, qui a survécu à tous les régimes. Martin Luther King, c'est notoire, déclare-t-il lors d'un petit déjeuner de presse, est le plus grand menteur de ce pays. Ça, c'est une déclaration de guerre, ça fait un scandale, indignation du pasteur, évidemment, et rencontre entre les deux. Or, au cours du rendez-vous mythique entre Luther King et Hoover, je dis mythique, ça ferait l'objet d'une jolie pièce de théâtre, ça. Ce dernier, Hoover, met sous les yeux du leader noir un certain nombre de rapports compromettants, pas du tout compromettants, mettant sur un plan politique, comme on pourrait le croire, mais sur le plan des mœurs. Il apparaîtrait que le grand homme ait lui aussi ses petites faiblesses et que graviteraient autour de lui de jeunes et jolies militantes auxquelles il ne resterait pas indifférent. Ce genre d'accusation, comme celle de fraude fiscale qu'on lui avait d'ailleurs imputée jadis, tout ça va écorner évidemment l'image du personnage. Et c'est dans ce climat parasité que notre héros remporte en mars 65 son dernier succès avec la marche de Selma à Montgomery, marche de protestation contre la politique toujours ségrégationniste du gouverneur de l'Alabama, Wallace. Le 21 mars, 350 000 pèlerins, si l'on peut dire, convergent à Montgomery. En soi, c'est un grand succès, mais qui trouve vite ses limites, parce que Martin Luther King, dans la foulée, lance un boycott des produits de l'Alabama qui n'est pas suivi. Et puis, disons-le, parmi les plus jeunes, ces méthodes de non-violence sont de moins en moins suivies. Pour les plus jeunes, Martin Luther King est un bourgeois moraliste. C'est le fameux oncle Tom dont je vous parlais tout à l'heure. Pendant l'été 67, il se rend à Cleveland à porter son soutien à Carl Stokes, qui est le candidat noir à la mairie. Or, Stokes, sans doute pour ne pas se mettre à dos l'électorat blanc, refuse de rencontrer Martin Luther King. Or, il est néanmoins élu, ce qui est un camouflet pour le pasteur. King se trouve maintenant en porte-à-faux. Il a perdu une part, enfin, une petite part, mais tout de même, on peut dire que son image a un peu pâli et qu'il n'a pas gagné pour autant l'estime des activistes. Fin 67, il est de nouveau emprisonné à Birmingham, il a l'habitude, si j'ose dire, avec d'autres leaders. Il met au point une marche des pauvres de tout le pays sur Washington pour le printemps 68 et dès sa libération, il franchit une nouvelle étape dans le sens de la rupture et de la révolution. Le 31 mars 68, à la cathédrale épiscopalienne de Washington, il accuse « On a libéré les Noirs, mais on ne leur a pas donné de quoi se payer le quart pour rentrer à la maison », dit-il. La marche des pauvres est presque sur pied. Elle promet d'être un triomphe. Ça n'empêche pas le pasteur de se rendre à Memphis dans le Tennessee pour prendre part à la manifestation des éboueurs. Là, il y a eu des violences. Un jeune Noir a été tué par la police. Le soir du 3 avril, au temple maçonnique de Memphis, Martin Luther King déclare « Comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie. La longévité, c'est appréciable. Mais ce n'est pas à cela que je pense. Maintenant, je veux seulement faire la volonté de Dieu. » Le lendemain, en fin d'après-midi, il est sur le balcon de sa chambre de motel, un petit hôtel qui s'appelle Lorraine. Il appelle un ami qui passe sur le trottoir. « Bien sûr, tu joues Seigneur, prends ma main ce soir à la réunion, dit-il. Joue le bien, c'est, il allait dire, pour moi. » Et à ce moment-là, un coup de feu. Martin Luther King s'écroule, la gorge trouée. Il va mourir une heure plus tard. C'est une balle de fusil de fort calibre qui a tué Martin Luther King. Alors qui l'a tiré, cette balle? Un homme qui se trouvait en face dans une pension de famille minable. Il a abandonné l'arme et s'est enfui à bord d'une Mustang blanche. Il va y avoir 6 jours de chasse à l'homme qui vont monopoliser, on peut dire, l'attention du monde entier. Et grâce à un quart d'empreinte digitale sur le canon du fusil, le FBI identifie le meurtrier comme étant James Earl Ray, un repris de justice évadé du pénitencier du Missouri. Il a eu le temps de passer au Canada, puis au Portugal, enfin en Angleterre. Il s'apprêtait à passer en Afrique quand Scotland Yard l'appréhende. Il est extradé à Memphis. Alors il reconnaît les faits, mais il affirme n'être qu'un tueur à gages. Les conditions dans lesquelles se déroule le procès de Ray sont pour le moins étranges. La défense a tendance à accabler son client en affirmant qu'il a agi seul et en échange, l'accusation renonce à réclamer la peine de mort. Vous savez, c'est ce genre de compromis de la justice américaine. Scandale énorme, évidemment. Et en août 69, Ray écope de 99 ans de prison. Il ne mourra qu'en 1998, mais en mourant, il emportait dans la tombe la vérité sur les dessous de cette sombre, très sombre affaire, sur les véritables raisons de la mort de Martin Luther King. Bonjour Alain Foy.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes l'auteur d'une biographie inédite dans la collection Folio Biographie. Je dis inédite parce qu'elle sort directement en poche, donc c'est toujours un peu surprenant, mais c'est ainsi chez Folio. Ça s'appelle tout simplement Martin Luther King. Et vous, vous avez un point de vue assez net et clair sur la mort et sur les causes de la mort de Martin Luther King.
Oui, Bien entendu, évidemment, il y a un dindon de la farce qui est James Earl Ray, mais on est à peu près certain, et la famille de Martin Luther King encore plus que nous, qu'il n'est pas le seul coupable et qu'il y avait vraiment une véritable conjuration. Que faisait le FBI sur les lieux du crime? Que faisait la police de l'armée, les services secrets de l'armée? Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Pourquoi le maire de la ville a fait nettoyer les buissons le lendemain du crime, là où effectivement il y avait des drôles de mouvements? Pourquoi juste la veille de ce tir, on a demandé aux deux noirs pompiers de la caserne d'à côté de ne pas se rendre à leur travail parce que là il y avait effectivement des tireurs aussi embusqués? On sait aussi par le témoignage d'un garagiste avoir entendu quelqu'un qui était connu pour appartenir à la mafia, qui téléphonait dans une cabine en disant « Dès que ce fils de sort sur le balcon, tu lui tires dessus. »
Et voilà. Donc là, il y avait donc tout un complot, toute une machination organisée. Et évidemment, on n'a pas du tout fait la lumière sur l'affaire.
Voilà, il faut savoir que Earl Ray s'est rétracté après ses aveux et qu'il s'est dit victime d'une machination.
Il est devenu une sorte, entre guillemets, de héros, hein, parce qu'il a eu ses propres partisans, Earl Ray, il faut le dire. Plus tard, évidemment, ses apparitions étaient toujours extrêmement médiatisées. Il est devenu le prisonnier le plus célèbre, enfin l'un des prisonniers les plus célèbres des États-Unis. Mais il n'a jamais raconté très exactement ce qui s'était passé. On ne sait pas vraiment dans le détails, on serait en peine aujourd'hui d'établir exactement le cheminement de l'assassinat.
Il y a Dexter Scott qui est le fils de Martin Luther King, un des jeunes fils, qui a dans un de ses ouvrages déclaré que James Earl Ray n'était pas le coupable.
Voilà, donc ça c'est en tout cas la conviction dans la famille de Martin Luther King. Alors, quoi qu'il arrive, évidemment, sa mort a été un bouleversement, un choc terrible. Il faut dire qu'il y avait eu un certain nombre de morts violentes, hein. On était dans cette fin des années 60 où les États-Unis sont souvent à la une de l'actualité mondiale. La mort de Martin Luther King a été un grand choc. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a politiquement permis d'avancer encore un peu plus sur le chemin de l'égalité des Afro-Américains?
C'est-à-dire qu'au moment de la mort de Martin Luther King, il y a eu un soulèvement énorme de la communauté noire et ceux contre lesquels il luttait, c'est-à-dire tous les tenants du Black Power, Black Masons, les Black Panthers, se sont trouvés légitimés de ce moment-là.
Donc il y a une radicalisation du mouvement.
Il y a un certain jeune homme qui avait 14 ans, qui s'appelle Mumia Abou-Jamal, qui est aujourd'hui encore enfermé dans les prisons, qui vient de sortir des couloirs de la mort. J'ai écrit une pièce à son sujet d'ailleurs, dernière scène, qui le lendemain quasiment de la mort de Martin Luther King est entré chez les Black Panthers. Donc il y a eu une véritable radicalisation. Et évidemment, Martin Luther King n'en voulait pas, parce que le véritable sens du combat de Martin Luther King, c'était passer la ligne des couleurs. Et c'est parce qu'il a passé la ligne des couleurs qu'il était tué, parce que il devenait extrêmement dangereux tant qu'il restait.
Il n'était plus un revendicateur, il devenait un révolutionnaire.
Voilà, parce que il a fait cette marche, il préparait cette marche des pauvres gens qui n'était pas la marche des noirs.
Il y avait autant de blancs que de noirs finalement parmi les pauvres. Oui. Alors, nous allons revenir sur l'ensemble de l'œuvre, si j'ose dire, du travail de Martin Luther King. Nous avons vu là les tout débuts, ses débuts dans la vie et dans l'engagement. Nous avons vu sa terrible fin, particulièrement tragique et mystérieuse. Eh bien, que s'est-il passé entre les deux? C'est ce que nous voyons maintenant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
La voix de Sam Cooke sur Europe 1 avec Change is Gonna Come, Franck.
Oui, avec des paroles qui dénoncent les discriminations raciales de l'époque. Alors, à sa sortie, la chanson a connu un succès modéré, mais elle s'est imposée peu à peu jusqu'à devenir vraiment une sorte de mythe. Elle devient l'hymne du Civil Rights Movement et de nombreux artistes vont la reprendre. Et on sait que Barack Obama, évidemment, a mis cette chanson en vedette, si je puis dire, au moment de la cérémonie de sa première investiture. Nicole Bacharon, différent. Le fait que Barack Obama ait été élu président de la République, est-ce que c'est, enfin, président des États-Unis, hein, de la République américaine, si l'on peut dire.
Oui.
Est-ce que c'est la fin de cette évolution? Est-ce que c'est le point final ou le point d'orgue? Ou est-ce que ça n'est juste que de la poudre aux yeux et qu'il y a encore beaucoup à faire, d'après vous?
Je pense que c'est une étape fondamentale. Ce n'est pas la fin du combat pour contre les inégalités, ça certainement pas. Mais c'est au fond le triomphe de la vision de Martin Luther King. Vous évoquiez, Franck, le conflit au fond entre Martin Luther King, sa vision pacifiste, et les plus radicaux. Sa mort tragique, mais aujourd'hui c'est sa vision à lui, d'intégration, d'égalité, de liberté pour tous, qui triomphe avec cette élection de Barack Obama, même si on n'est pas au bout des combats.
Il s'avère, lorsqu'on étudie l'histoire des 19e et 20e siècles, que les grands mouvements non violents finissent toujours par s'imposer et triompher. C'est très rassurant, c'est très encourageant, ça, finalement, comme constat. Et j'ai cité deux ou trois fois le nom de Gandhi, évidemment, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que Gandhi a été un modèle pour Martin Luther King?
Ah oui, très certainement. Un modèle, pas l'unique modèle. Je rappelle quand même que Martin Luther King est un philosophe. Il a étudié Hegel, il a étudié Marx, il a étudié les quantités, Saint-Augustin, etc. Mais Gandhi lui apporte cette conception de la non-violence. Mais alors, il faut pas se méprendre. Hein. C'est pas une politique de bisounours. Hein.
Non, bien sûr, hein.
La non-violence, c'est une technique de combat. Hein. D'ailleurs, Martin Luther King dit qu'il est le chef d'une armée non-violente. Donc une armée extrêmement organisé et il fallait s'entraîner à la non-violence. C'était pas évident de résister de façon non-violente aux attaques des chiens, du FBI
et à toutes
notamment,
les provocations qu'on peut imaginer.
Policiers. Voilà toutes les provocations. Donc c'est une stratégie non-violente. Et donc c'est cette stratégie qui va gagner. Pourquoi? Parce que Martin Luther King ne veut pas s'aliéner la voix des blancs parce qu'il considère que les noirs américains sont d'abord des Américains noirs, c'est-à-dire sont d'abord des Américains et que on ne peut pas, à 10 contre 1, se battre et gagner. Voilà. Donc il faut absolument gagner le cœur et l'esprit des Blancs. Donc il faut passer la ligne des couleurs. Et c'est pour ça qu'il va s'opposer au Black Power, parce qu'il trouve que c'est absurde. Il dit même que c'est suicidaire de penser comme cela, parce que ça veut dire que de toute façon, on pense perdre.
Il est encadré, hein, si je puis dire, puisqu'on a bien compris qu'il a deux grands ennemis, le FBI de Hoover d'un côté, le Black Power de l'autre côté, et Mohamed Ali, etc. Donc il est un peu coincé entre les deux, mais ça laisse quand même de l'espace. Et surtout, c'est un espace qu'il ne va cesser d'élargir grâce à un talent. Il faut quand même que vous nous disiez, vous Alain Foy, quel talent avait cet homme pour parler, pour convaincre, pour séduire.
Il est du bois dont sont faits les grands prêcheurs américains, d'une part, et d'autre part, il faut pas oublier que le savoir parler des Américains est aussi relié au savoir chanter. Hein. Il y a le chant qui est quelque chose de fondamental. Martin Luther King dit que la musique est notre arme de guerre. Et pourquoi? Parce que au fond, c'est quelque chose qu'il partage avec les Blancs. Il ne faut pas oublier ça. Tous les Blancs ont été bercés par des nounous noirs. Ils sont noirs au fond, culturellement. Il ne faut pas oublier. Et donc, quand on parle sur avec une certaine scansion, avec une certaine mélodie, avec un certain chant, eh bien, on touche l'âme de nos ennemis. Et donc, d'une certaine façon, on partage quelque chose de commun. C'est pour ça que Martin Luther King ne s'est jamais opposé aux Blancs d'une manière ou d'une autre.
On ne peut pas faire évidemment d'histoire-fiction, même si j'aime bien faire ça de temps en temps, mais étant donné le chemin qu'il avait pris et cette marche des pauvres dont vous parliez, qui devient une prise de position non plus sociale mais révolutionnaire en quelque sorte, qu'aurait pu devenir Martin Luther King s'il avait continué de vivre? Est-ce qu'il aurait finalement rejoint la branche la plus radicale ou est-ce qu'il serait devenu un leader révolutionnaire?
Oui, je pense en fait, il a compris en réalité, et surtout quand il est arrivé dans les ghettos de Chicago, que le combat n'était pas simplement la lutte contre les lois ségrégationnistes, c'était une loi beaucoup plus... c'était en fait quelque chose de beaucoup plus pervers, et que le vrai problème n'était pas le problème des Noirs, c'était le problème des pauvres, et que les Noirs étaient évidemment pauvres de par une histoire qui était liée à ça, mais que et donc il va rejoindre par exemple tous les syndicats en leur disant que leur combat, le combat des travailleurs, c'est le combat des Noirs, c'est la même chose, et donc d'une certaine façon, il va s'associer les syndicats, et là il va devenir dangereux, réellement dangereux, et puis il va s'attaquer à la guerre du Vietnam, il va faire des déclarations. Alors là, Lyndon Johnson qui l'avait soutenu se trouve à ce moment trahi, ça devient vraiment dangereux pour lui. Et de l'autre côté, les Noirs qui sont enfermés sur leur question noire ne vont pas comprendre pourquoi Martin Luther King va sortir de là. Et en fait, réellement, Martin Luther King sort de ce cadre-là et devient un leader beaucoup plus large. Et peut-être, à un moment donné, il a même pensé pouvoir se présenter aux élections américaines. Voilà.
Quelle est aujourd'hui l'image de... Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, Martin Luther King reste une grande référence, Nicole Bacharan?
C'est un héros national. Hein. Il a sa fête au mois de janvier, qui est un jour férié, respecté presque partout. Son fameux discours, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, les enfants l'apprennent dans les écoles. De même que sa lettre de la prison de Birmingham, une des nombreuses fois où il a été emprisonné, une lettre où il dit « Le but de l'Amérique, c'est la liberté ». C'est un grand héros américain et il est respecté comme tel, j'ai envie de dire, presque partout, en tout cas par les enfants des écoles et leurs professeurs.
Et ces textes sont étudiés à l'université.
Oui, donc c'est devenu... Il y a même des départements d'études.
De rhétorique.
Merci beaucoup à vous deux. Les Noirs américains des champs de coton à la Maison Blanche de Nicole Bacharan. C'est réédité chez Tempus dans la collection de poche des éditions Perrin. Et puis Martin Luther King par Alain Foy. C'est un inédit en folio biographie. Merci beaucoup.
Merci.